Igloo, le Mac de l'habitat.
Bienvenue dans Igloo, l'émission qui ne voit pas double, mais qui voit bien, qui voit clair. L'émission qui s'occupe de l'habitat, le Mac de l'habitat, sur topmusic.fr, sur Igloo On Air, avec Cédric Simonin, notre maître de cérémonie.
Ouais, qui ne voit pas double.
Non, vous voyez bien.
Ouais. Ouais.
Alors que moi, regardez.
Catastrophe.
Ouais, une cata. Virginie Jacob est revenue après une première émission autour du bailleur social. Virginie, soyez la bienvenue. Vous êtes toujours directrice générale d'Habitation Moderne.
Toujours.
Depuis 3 ans, d'ailleurs. Je ne sais pas si je l'avais dit la première fois. Habitation Moderne, petite présentation, société immobilière qui dépend de la ville de Strasbourg. Votre principale activité est bailleur social. Vous possédez 10 000 logements. Voilà,
oui.
Pour loger les gens qui sont... éligibles. Le mot m'échappait. La deuxième partie de cette émission, donc, du coup, Cédric.
Oui, alors c'est un sujet qui est très vaste. Une fois n'est pas coutume, on a souhaité le traiter en 2 émissions distinctes. Donc je rappelle juste que l'émission précédente, c'était traiter du sujet de la demande du logement locatif social. Et pour cette émission, on va traiter de l'attribution d'un logement locatif social. Donc pour entrer directement dans le vif du sujet, Virginie, qui est décisionnaire de l'attribution d'un logement social ?
Alors l'attribution d'un logement social, c'est quelque chose de très réglementé. Ça s'effectue au sein d'une commission d'attribution, une CAL, commission d'attribution des logements. Chez Habitation Moderne, par exemple, on en a une toutes les semaines. Comme on a un gros volume de logements, effectivement, ça nécessite régulièrement de pouvoir réunir notre commission. Cette commission, elle est notamment composée de représentants du bailleur social, propriétaire du logement en question, qui est attribué. Un représentant des locataires, les associations de locataires sont représentées à cette commission, un représentant de la commune où se trouve le logement et un représentant de l'État. Cette commission examine 3 dossiers de candidats qui répondent strictement aux critères du logement qui est disponible et elle positionne cette commission, ces 3 dossiers, dans l'ordre qu'elle estime pertinent en regardant les critères de demande finalement des uns et des autres. À partir de là, une fois que la commission a positionné les 3 demandeurs, et on a mis 1 en première position, le bailleur prend contact avec ce ménage mis en première position et lui propose le logement. S'il le prend, tout va bien. S'il ne le prend pas, on passe au deuxième. Si le deuxième ne le prenait pas, on passerait au troisième.
Et ainsi de suite.
Quel
est le temps? Ah, d'accord, juste au troisième.
Jusqu'au troisième. C'est 3 propositions par logement. Si jamais, c'est quand même assez rare, mais si jamais 3 fois le logement était refusé, on repasserait à nouveau de nouveaux candidats hors de ces 3-là.
D'accord. Quel est le temps d'attente pour, avant d'obtenir une réponse?
Alors, il peut varier de plusieurs semaines à plusieurs mois en fonction de l'offre disponible et du volume de demandes que l'on peut avoir en face. Pour vous donner un ordre d'idée, en Alsace, on a aujourd'hui à peu près 40 000 de demandes de logement, 40 000 demandes actives de logement social. Une grande partie se concentre sur l'agglomération strasbourgeoise, donc il faut de temps en temps savoir prendre son mal en patience et savoir attendre qu'une offre puisse venir et correspondre à votre besoin.
Ça me semble énorme, 40 000. J'ai assez peu de notions de chiffres.
Oui, mais... c'est pas mal, mais il faut savoir que dans ces 40 000, on a à la fois... des gens qui sont déjà logés dans un logement social et qui souhaitent simplement, si je puis dire, muter, on appelle ça muter, c'est pas très joli, mais ça dit comme ça. Donc trouver un autre logement, peut-être plus grand, plus petit, en fonction de l'évolution. Mm-hmm. On a des gens qui sont logés dans le parc privé et qui, ce parc devenant trop cher pour eux, ont besoin de pouvoir accéder à un logement moins cher. Et puis on a aussi, troisième catégorie, des gens que l'on n'appelle pas logés, qui sont hébergés ou qui sont en décohabitation, par exemple des jeunes qui veulent partir de chez leurs parents, ils ont un logement mais c'est pas leur.
Alors je rappelle qu'on a parlé dans l'émission numéro 1 hein, des plafonds de ressources pour être éligible, il faudra s'y référer. Hein. Quelle attitude à adopter une fois que la demande de logement est effectuée ?
Alors quand vous avez fait votre demande de logement, c'est pas forcément nécessaire de relancer régulièrement le ou les bailleurs pour connaître l'état d'avancement de votre dossier. Votre dossier de toute façon est accessible à l'ensemble des bailleurs du département, donc une fois qu'il est fait, c'est bon, tout le monde peut essayer de faire une offre. Si on en a une en tout cas en face. Si c'est le cas, donc c'est le bailleur qui reprend directement contact avec vous. Donc une fois que la commission d'attribution que nous venons d'évoquer vous a attribué le logement, c'est le bailleur qui prend contact avec vous. Donc ça se fait tout seul, si
d'accord.
Je puis dire. Par contre, il y a 2-3 points quand même qui sont importants à savoir. Il faut que dès le départ, votre dossier de demande soit bien complété. Il faut que vous ayez rempli, bien renseigné toutes les cases avec toutes les informations qui sont demandées. Donner aussi les pièces justificatives qui sont demandées. Ça, c'est important pour que votre demande puisse être traitée. Il faut aussi, si votre situation change en cours de route, vous avez un enfant ou vous divorcez malheureusement quelques mois après, il faut mettre à jour votre demande pour que le logement qui vous est proposé tienne compte de votre évolution de situation.
D'accord.
Et puis chaque année, il faut renouveler sa demande. Alors, pas de panique, de toute façon, c'est le bailleur qui... Enfin, c'est pas le bailleur, mais vous avez un courrier qui vous est adressé un petit peu avant la date anniversaire de votre dépôt de demande initiale. Et ce courrier vous indique, voilà, vous arrivez bientôt à échéance de votre demande. Est-ce que vous souhaitez la renouveler? Dans ce cas-là, vous redéposez les pièces simplement à mettre à jour.
D'accord.
Donc, on attend tranquillement dans son coin. Et un jour, on a un coup de fil et on est éligible. On devient... On nous attribue un logement. Mais on attend tranquillement. On n'a pas besoin de s'exciter comme un fou.
Non, vraiment, ce qui est important, c'est vraiment, par contre, bien renseigner votre situation et la mettre à jour, la tenir à jour. Mmh. C'est ce qui permettra de vous faire une offre qui est bien adaptée à votre situation. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas toujours le cas. Et ça pose des difficultés, du coup, pour faire une offre qui soit adaptée. Si, entre-temps, la personne nous a dit « Non, vous proposez un logement, effectivement, c'était ma demande initiale, mais ma situation a changé. » On ne peut pas le savoir si vous ne l'avez pas renseigné.
Mmh. Ouais, donc vous attribuez peut-être des logements et finalement vous êtes obligé de faire marche arrière.
Oui, c'est pour ça que trois candidats sur un logement, c'est pas mal, parce que si le premier a eu sa situation qui a changé, le deuxième, c'est peut-être pas le cas. Et donc à celui-ci, on va peut-être pouvoir lui attribuer le logement.
Très bien. Et pour les demandes dites anormalement longues?
Alors, on va peut-être déjà dire ce que c'est qu'une demande anormalement longue. Ici, dans le Bas-Rhin, parce que les délais changent selon les départements, on considère une demande anormalement longue quand elle n'a pas fait l'objet d'offres de logement sur les deux dernières années. Mmh. Ça veut dire que vous avez attendu 2 ans sans avoir d'offre. Alors, il peut y avoir plusieurs causes, on va dire. La première, c'est, je vais me répéter, vous n'avez pas forcément bien rempli votre dossier de demande et donc on n'a pas forcément bien pu cerner votre demande pour pouvoir vous faire une offre. Mmh. Ça, c'est une première catégorie. Ou alors, vous avez des critères qui sont trop restreints. Vous avez ciblé une rue, vous ne voulez habiter que dans cette rue. Il n'y a aucun logement qui se libère pendant 2 ans. Forcément, vous n'allez pas avoir d'offre. Si vous êtes en délai anormalement long, par contre, nous, on le voit. C'est-à-dire qu'au niveau des bailleurs et du logiciel partagé, ces demandes-là apparaissent. Il y a un petit message qui apparaît qui dit, voilà, il y a une alerte, exactement.
Mmh. OK. On parle des droits et des devoirs du locataire?
Oui.
Allons-y.
Oui, ok, c'est parti. Donc sur les droits et devoirs, ils sont relativement similaires à ceux du logement privé. Quand un locataire se voit attribuer un logement et il signe un bail, classique, il a un dépôt de garantie, il signe un état des lieux, il fait un état des lieux d'entrée, il le fera aussi à la sortie évidemment pour vérifier l'état du logement quand il le prend en charge. Au niveau de ses devoirs, évidemment, il doit régler chaque mois son loyer et ses charges, comme tout le monde, voilà, ça c'est logique. Il doit aussi assurer de manière continue son logement. Et puis, il doit l'entretenir correctement, il doit également l'occuper paisiblement, c'est-à-dire comme tout le monde, comme dans n'importe quel type de logement, il ne doit pas créer de troubles de voisinage, bruit, autre, ça c'est relativement
des grands classiques.
Des grands classiques. Un locataire peut être expulsé s'il ne règle pas ses loyers ou ses charges, s'il n'assure pas son logement, ou si justement elle crée des troubles. Donc c'est les mêmes...
Même conditions.
Voilà, même conditions, exactement.
D'accord. Est-ce que, une question un petit peu comme ça qui me vient à l'esprit... Est-ce que le locataire a conscience que c'est une chance pour lui, une chance, je vais le dire comme ça, de pouvoir accéder à un logement social avec un loyer modéré?
On peut le dire comme ça. Alors, je dirais jamais une chance de se dire éligible à un logement social,
bien sûr,
parce que ça veut dire qu'on a... Oui, je comprends bien le bémol. Par contre, c'est une chance, effectivement, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans un pays, dans une situation où on propose ce genre d'offres. C'est pas forcément le cas partout, donc c'est effectivement une chance. Pour répondre à votre question, certains locataires en ont pleinement conscience, d'autres un petit peu moins, mais ça, c'est un petit peu comme dans tout domaine. C'est assez variable.
Une question que je me suis posée, je suis bénéficiaire d'un logement social et puis mes revenus augmentent grâce à une... Mes revenus augmentent,
voilà,
comme ça.
Situation qui change.
Une situation qui change. Je dépasse les plafonds d'attribution. Que se passe-t-il? Est-ce que je suis obligé de partir?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Si vous dépassez, donc vous êtes attributaire de votre logement, vous êtes locataire, et puis effectivement, en cours de route, vous avez une bonne surprise, vos revenus augmentent régulièrement, ou pas régulièrement, mais augmentent. Si vous dépassez de plus de 20% les plafonds de ressources, à ce moment-là, on va vous appliquer ce qu'on appelle un surloyer. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus bénéficier du loyer minoré pour le logement, mais par contre, vous aurez un complément de loyer qui vous fera repasser à un niveau de loyer qui sera comparable au marché privé.
D'accord.
Ceci pour ne pas rompre l'égalité entre des gens qui auraient moins de ressources et qui pourraient bénéficier de loyer minoré et des gens qui auraient de meilleures ressources, de meilleures conditions de vie et qui, du coup, seraient à réalité, si je puis dire. Alors ça, c'est le premier cas de figure. Donc, vous dépassez de plus de 20% les plafonds de ressources. Si jamais vous avez vraiment bien évolué dans votre situation professionnelle ou autre et que vous dépassez de plus de 150% ce plafond de ressources pendant 2 ans d'affilée, à ce moment-là, vous perdez le bénéfice de votre logement et on va évidemment vous demander de le rendre pour qu'il puisse bénéficier à un demandeur qui lui en a plus besoin que vous.
Bien sûr.
À ce moment-là, vous aurez 18 mois pour le quitter.
On a le temps quand même.
Vous avez un peu le temps quand même de vous retourner.
Je pense notamment aux jeunes qui se lancent dans la vie active.
Oui, c'est normalement fait pour ça. Il y a quand même des petites exceptions, évidemment, à cette règle-là. Les personnes qui ont plus de 65 ans, les personnes qui sont en situation de handicap ou quand on est dans un logement qui est situé dans ce qu'on appelle un quartier politique de la ville. À ce moment-là, ces règles-là ne s'appliquent pas.
D'accord. J'aimerais qu'on parle de la loi Élan par rapport à l'attribution de logements sociaux. Donc Élan, rien à voir avec l'animal, Eric. Hein. C'est évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Qu'est-ce que ça va changer dans l'attribution des logements sociaux ?
Alors, je vais vous donner deux exemples de mesures qui sont comprises dans cette loi et qui vont avoir un impact sur l'attribution des logements sociaux. La première mesure, c'est ce qu'on appelle la généralisation des dispositifs de cotation de la demande. Mm-hmm. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est parce que c'est assez technique comme terme, évidemment. La cotation de la demande de logements locatifs sociaux, ça correspond à une pondération des critères de demande. Je m'explique. Vous êtes plusieurs demandeurs, vous avez des situations différentes. Il faut qu'on puisse ordonnancer vos situations de manière à savoir à qui il est préférable ou à qui il est souhaitable plutôt d'attribuer des logements en premier. Donc l'idée, c'est d'avoir des critères qui soient communs à l'ensemble des bailleurs sur un territoire. Et à partir de là, de pouvoir... C'est un outil d'aide, donc ça peut aider ensuite le bailleur à mieux savoir parmi les trois demandeurs, parmi les trois candidats positionnés sur un logement, lesquels il faut, si je puis dire, piocher parmi la liste des demandeurs. Donc c'est un outil d'aide à la décision. Alors il faut savoir que sur Strasbourg, il y a une expérimentation en cours sur le sujet. Je peux vous en dire deux mots si vous voulez.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors c'est une expérimentation, donc comme son nom l'indique, c'est fait pour vérifier si les critères seraient les bons et comment ça fonctionnerait. Donc on est vraiment en phase, pas encore de déploiement, mais vraiment en phase d'expérimentation. L'idée, c'est d'avoir déterminé des critères qui puissent notamment permettre de faire remonter les demandes les plus anciennes, puisque l'une des difficultés que l'on pouvait avoir, c'est d'arriver à bien cerner les demandes anciennes et aussi à comprendre pourquoi elles n'ont pas eu d'offre et donc du coup à pouvoir faire une offre, en tout cas apporter une réponse le mieux possible.
Donc si je comprends bien, c'est des critères communs à tous les bailleurs sociaux, un système de scoring qui priorise les demandeurs.
Oui, alors c'est un outil d'aide à la décision pour la commission d'attribution, c'est-à-dire que ce n'est pas une attribution automatique, vous avez des points et puis à partir de là, vous avez le plus de points, c'est automatiquement vous, mais ça peut permettre en tout cas de mieux traiter finalement la demande. Donc ça, c'est une première mesure. Exactement.
La deuxième mesure ?
La deuxième mesure, c'est une mesure qui va consister à réexaminer tous les 3 ans dorénavant la situation des locataires en place. On évoquait tout à l'heure la situation des personnes dont la situation économique s'est améliorée. Mmh. Ça peut être un critère, mais on peut aussi avoir par exemple des ménages qui occupent un grand logement. Les enfants sont partis entre-temps, ils occupent toujours ce grand logement, il y a des familles qui attendent. On va essayer de voir comment on peut essayer de les accompagner vers un autre logement de manière à libérer celui-là. Donc tous les 3 ans, les bailleurs vont avoir l'obligation, ou en tout cas le devoir, d'examiner la situation de leurs locataires et de vérifier ceux qui sont dans des situations qui nécessiteraient d'autres propositions de logement. Et à ce moment-là, c'est le travail qu'on va faire.
Bon, presque l'idéal, ce serait d'avoir des logements qui se modulent en fonction de la situation et des parcours de vie, quoi.
Ah oui, ça, ce serait vraiment l'idéal de pouvoir avoir ce type de logement. Alors ça, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais ça viendrait certainement percuter les réglementations en cours qui sont relativement strictes et restrictives sur le sujet, mais ce serait certainement une piste intéressante, oui.
Merci beaucoup Virginie Jacob, ça a été très très clair. Vous pouvez résumer tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui en 30 secondes ?
En 20 minutes, ça vous va ?
Ouais.
Ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, donc on a parlé de l'attribution du logement locatif social, donc j'indiquais que le plus important c'était déjà de bien remplir sa demande, qu'à partir du moment où c'était fait, votre demande était partagée entre tous les bailleurs sociaux du département qui vont à partir de là pouvoir vous faire une offre. Il faut parfois savoir être patient parce que ça peut prendre un petit peu de temps. Si vous êtes prioritaire dans les attributions, ça peut aller un petit peu plus vite, mais on va essayer de faire au mieux pour répondre à votre besoin le mieux et le plus rapidement possible.
Eh bien merci, vous revenez quand vous voulez, c'était parfait. Merci,
merci
Cédric Simonin.
Merci Eric.
On partage ces émissions, on partage Igloo beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Igloo en air, sur Facebook. Et puis évidemment, toutes les émissions en intégralité sont disponibles sur topmusique.fr. C'était Igloo, merci Virginie, merci Cédric.
Merci Eric.
Bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, bon appétit.
Bonne ce qu'on veut.
Ce que vous voulez.
Voilà. Joyeux Pâques.
Exactement, et puis joyeux Noël. Salut.
Salut.
Salut.